VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du lundi 13 août 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedounia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au Mali, dépouillement du scrutin après le second tour de la présidentielle de dimanche, marqué par des incidents.
Au Burkina Faso, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste pendant le week-end contre les forces de sécurité dans l'est du pays.
En Égypte, arrestation de 6 membres présumés d'une cellule terroriste responsable d'un attentat suicide manqué contre une église au nord du Caire.
Ici à Washington, une poignée de néo-nazis seulement sont venus manifester hier dans la capitale fédérale où les attendaient des centaines de contre-manifestants.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Mali, le second tour de la présidentielle a été émaillé d'incidents majeurs. Un agent électoral a été tué dans la région de Tombouctou par des hommes armés non identifiés, des bureaux de vote emportés et certaines populations du centre du pays ont été empêchées de voter. Mais de façon générale, le scrutin s'est bien déroulé dans les grandes villes. Cependant, les bureaux de vote n'ont pas connu de forte affluence. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Un second tour très attendu, mais qui n'a pas répondu aux attentes des observateurs et qui pensaient que les Maliens allaient se bousculer devant les urnes. Tel n'a pas été le cas, surtout à Bamako. Certains pensent que c'est à cause de la pluie, mais en réalité, même après, les Bamakois ne sont pas sortis pour aller glisser leur bulletin dans l'urne. De façon générale, ce scrutin a été émaillé d'incidents au centre et au nord du pays. Dans la localité de Nampala, des assaillants ont emporté 12 bureaux de vote avant de créer la panique chez les populations. À Niafunke, c'est un jeune président bureau de vote qui a été assassiné par des hommes en armes qui ont fait irruption dans un bureau de vote. Après ce forfait, les mêmes hommes armés ont brûlé le matériel électoral. C'est après cet incident que l'armée malienne est revenue sur place pour récupérer le corps du jeune avant de commencer des opérations de ratissage dans la zone. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Revenons plus en détail sur les incidents du cercle de Niafunke où les djihadistes sont assez actifs. Avec notre correspondant sur place, Sekou Abdoulkader Maïga.
À Arkodia, le président du bureau de vote 2 a été froidement assassiné à bout portant par des hommes armés qui ont fait irruption dans le bureau aux environs de 14h30. Selon plusieurs témoins, des hommes armés non encore identifiés ont d'abord tiré devant le bureau de vote, chassant ainsi les électeurs avant de tirer sur Ibrahima Alassane Cissé, président du bureau de vote. Les autres agents électeurs ont aussitôt pris la fuite dans la brousse. Plus tard dans la journée, aux environs de 17h, les présidents des bureaux de vote de Niodougou, Guati et Banyaga de la commune de Sobundu, très paniqués, nous signalant que des individus armés leur ont tiré dessus. Ceux de Guati ont été dépouillés de leurs biens, argent, téléphone et même des habits. Il faut signaler que le cercle de Niafunke est très vaste et s'étend jusqu'à la frontière mauritanienne et fait 359 bureaux de vote pour 84 473 électeurs. Sécuriser toute cette zone cherchant le mode asymétrique d'opération des bandits est une tâche difficile. Depuis Niafunke, Sekou Abdoulkader Maïga pour la VOA.
Au Burkina Faso, au moins 6 personnes ont été tuées dans une attaque terroriste visant samedi les forces de sécurité dans l'est du pays. 4 gendarmes et un civil sont morts dans l'explosion d'une mine, selon un communiqué de l'armée qui précise qu'un 5e gendarme a été tué dans des échanges de tirs qui ont suivi l'explosion. Ces gendarmes étaient chargés d'assurer la sécurité de la mine d'or de Boungou dans la région de Fada dans l'est du pays.
En Égypte, les autorités ont arrêté 6 suspects, membres d'une cellule terroriste responsable d'un attentat suicide déjoué samedi par les forces de sécurité contre une église au nord du Caire. Le ministère de l'Intérieur n'a pas précisé hier à quel groupe cette cellule était rattachée, mais on sait que le groupe État islamique a revendiqué la plupart des attentats contre les Coptes, attentats qui ont fait plus de 100 morts depuis 2016.
Et toujours en Égypte, l'Égypte, un tribunal a condamné à la prison à vie le guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badei, et d'autres responsables de la confrérie islamiste pour des manifestations violentes qui se sont déroulées en 2013. Le tribunal a aussi condamné à la perpétuité quatre hauts responsables des frères musulmans, notamment Essam Al-Aryan, Mohamed Al-Beltagi et Safwat Eghazi. En Égypte, la peine de prison à vie se traduit par 25 années de détention au maximum. Quatre autres co-accusés ont par ailleurs été condamnés à des peines de prison allant de 10 à 15 ans.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, une poignée seulement de néo-nazis se sont rassemblés hier devant la Maison-Blanche sous surveillance policière renforcée et face à des centaines de contre-manifestants un an après les incidents meurtriers de Charlottesville. Ils avaient reçu l'autorisation pour un cortège de 400 personnes, mais seule une vingtaine de suprémacistes blancs sont arrivés dans l'après-midi au Square Lafayette après avoir marché depuis une station de métro du centre de Washington. Parmi eux figurait Jason Kessler, organisateur de l'événement et déjà à l'origine du rassemblement de l'an dernier à Charlottesville.
Son organisation informelle, Unite the Right, avait un créneau de 17h30 à 19h30, mais ses manifestants ont quitté les lieux aux environs de 18h. Ces derniers avaient été accueillis par au moins 300 militants antiracistes qui leur ont crié « Honte à vous » et « Partez de ma ville ». Pour empêcher tout contact entre manifestants et contre-manifestants, un important dispositif policier avait été mis en place avec plusieurs artères interdites à la circulation.
En Iran, 67 personnes ont été arrêtées ces dernières semaines dans le cadre d'une campagne anticorruption approuvée par le guide suprême Ali Khamenei. Le point avec Idriss Fall.
Le vice-gouverneur de la banque centrale iranienne a été arrêté ainsi que d'autres responsables accusés de corruption et de spéculation. Plus d'une centaine de fonctionnaires ont également été interdits de quitter le territoire. Samedi, l'ayatollah Ali Khamenei a donné son feu vert pour la mise en place d'une cour spéciale pour juger les personnes accusées de crimes économiques. Le porte-parole de l'autorité judiciaire, Gholam Hossein Mohseini Ejei, accuse les États-Unis de faire pression sur l'économie. Déjà en avril, face à une forte dépréciation de la monnaie iranienne, les autorités avaient fermé les bureaux de change. La mesure avait entraîné une vague de spéculation sur le marché noir. Maintenant, le gouvernement a assoupli les taux de change du rial qui a beaucoup perdu de sa valeur et le rétablissement des sanctions économiques américaines est venu exacerber toutes les difficultés économiques du pays.
En Turquie, la Banque centrale a annoncé lundi qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité financière alors que la livre turque est en chute libre. Elle a notamment affirmé qu'elle fournirait toutes les liquidités nécessaires aux banques. La livre turque bat des records à la baisse ces derniers jours sur fond de tension avec Washington. Et le président Recep Tayyip Erdogan a estimé hier que cette chute résulte d'un complot politique contre son pays. Il a promis de chercher de nouveaux marchés et alliés alors donc que les relations avec les États-Unis sont au plus bas. Le point avec Bagassi Koura.
Le but de l'opération est d'obtenir la reddition de la Turquie dans tous les domaines, de la finance à la politique, a dit Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que son pays ne va pas rester les bras croisés. Les États-Unis et la Turquie sont partenaires au sein de l'OTAN et le Pentagone a une base à Incirlik, centre des opérations contre le groupe État islamique. Mais la livre turque s'est effondrée suite à la décision du président Donald Trump de doubler les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium turc. Washington réclame la libération immédiate du pasteur américain Andrew Brunson, jugé en Turquie pour terrorisme et espionnage. Il a été placé fin juillet en résidence surveillée après un an et demi de détention. De son côté, la Turquie demande l'extradition de Fethullah Gulen, prédicateur établi sur le sol américain et soupçonné par Ankara d'être l'architecte du putsch manqué de juillet 2016.
Les deux Corées se réuniront en septembre à Pyongyang pour un nouveau sommet annoncé lundi l'agence sud-coréenne Yonhap, alors que les deux camps ont engagé des discussions de haut niveau dans la zone démilitarisée. L'agence ne donne aucune source pour cette information. Un voyage à Pyongyang du président sud-coréen Moon Jae-in serait le premier au nord en plus d'une décennie d'un chef d'État sud-coréen. Les pourparlers de lundi avaient été proposés la semaine dernière par Pyongyang, qui a récemment dénoncé les efforts de Washington pour maintenir les sanctions. De telles sanctions ont empêché, malgré le rapprochement entre Séoul et Pyongyang, la reprise de la coopération économique intercoréenne.
En Afghanistan, les talibans ont continué de résister dimanche aux forces gouvernementales pour la troisième journée consécutive à Ghazni, dans l'Est, malgré la confiance affichée par les autorités sur leur capacité à reprendre le contrôle. S'exprimant devant la presse hier après-midi, le chef d'état-major afghan, le général Sharif Yaftali, a assuré que les forces de sécurité afghanes étaient en mesure de défendre Ghazni et de ramener la paix et la sécurité dans la ville. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Muniteco Ekiabodou.
La BAD, Banque africaine de développement, octroie 41 milliards de francs CFA au Gabon dans le cadre de la diversification de l'économie. L'institution financière panafricaine a déjà octroyé un prêt de plus de 62 millions d'euros, soit environ 41 milliards 200 millions de francs CFA, à l'État gabonais pour financer le projet d'appui à la diversification de l'économie gabonaise. La société de transport estonienne Taxify, concurrente de l'américain Uber sur les marchés émergents, met le cap sur les pays d'Afrique de l'Est. Elle a annoncé des investissements de plusieurs millions de dollars dans la région dans les 5 prochaines années, en misant sur les pousses-pousses, les motos et autres moyens de transport spécifiques à l'Afrique. Décrochage scolaire, chômage, emploi peu qualifié, bas salaire, absence de couverture sociale. Au Maroc, les jeunes de 15 à 34 ans, un tiers de la population, sont les grands oubliés de la croissance selon un rapport officiel. Le Conseil économique, social et environnemental du Maroc s'alarme du fossé qui sépare les 11 millions de jeunes marocains du reste de la population et du défi majeur que pose leur réinsertion sociale, qui doit passer par l'emploi, affirme l'organisme dans un rapport publié en fin de semaine dernière.
À présent, les sports avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, le Ghana dernier qualifié pour la phase finale.
Oui, le Ghana est devenu hier le 8e et dernier pays qualifié pour la phase finale de cette CAN 2019. Les Black Starlets, après leur victoire 3-1 à domicile contre les Écureuils du Bénin à l'aller, sont venus chercher le nul 1-1 à Cotonou. Odocha Bibio a pourtant ouvert le score de la tête pour le Bénin, mais Prosper Akhiabou a égalisé à la fin pour envoyer le Ghana en phase finale. Pour rappel, le tenant du titre, la Zambie, ne pourra pas défendre sa couronne. Rendez-vous du 24 février au 10 mars 2019 pour la phase finale qui va se jouer au Niger.
Qualification cette fois de la CAN des moins de 17 ans, le Cameroun, deuxième pays qualifié.
Après la qualification de l'Angola dans la zone COSAFA, on connaît un deuxième qualifié pour la phase finale de la CAN des moins de 17 ans, qui aura lieu en Tanzanie en 2019. Il s'agit du Cameroun qui a battu hier le Congo sur la marque de 3-1 dans la zone UNAFAC. Nassourou Ndongo, Alim Seydou et Ismaïla ont inscrit les 3 buts des Lions Cadets.
Élisée, la zone CECAFA a également démarré ses éliminatoires.
Effectivement Idrissa, et à domicile, la Tanzanie a réussi son entrée en disposant du Burundi sur le score de 2-1 dans ce groupe A. Le Rwanda a dominé le Soudan sur la marque de 3-1. Dans le groupe B, le Sud-Soudan et l'Éthiopie se partagent la tête. Les Sud-Soudanais ont dominé Djibouti 2-1 pendant que l'Éthiopie battait l'Ouganda 1-0. À noter que le Kenya, autre membre de ce groupe, est au repos. Aujourd'hui, on aura dans le groupe A Soudan, Somalie et Burundi-Rwanda.
Direction l'Europe avec la reprise du championnat de France et d'Angleterre.
En Ligue 1, l'Olympique de Marseille démarre fort suite à sa victoire de 4-0 devant Toulouse. 3-0 pour le champion en titre PSG contre Caen. L'AS Monaco s'impose à Nantes 3-1 et 2-0 pour Lyon face à Amiens. Par contre, début raté pour Bordeaux qui s'incline 0-2 à domicile devant Strasbourg. En Angleterre, pour le choc de la première journée, Manchester City s'impose à Arsenal 2-0. Son dauphin de la saison écoulée, Manchester United a eu raison de Leicester 2-1. Liverpool sort facilement vainqueur 4-0 devant West Ham. Facile victoire également de Chelsea 3-0 à Huddersfield. Et puis, Tottenham est allé battre Newcastle 2-1.
Cyclisme avec l'épilogue du Tour du Rwanda, Samuel Mugisha remporte cette édition de 2018.
Oui, le coureur rwandais devance son compatriote Jean-Claude Uizewe et l'éthiopien Moulu Haile Michael. C'est pour la cinquième année consécutive depuis 2014 que le rwandais s'adjuge le maillot jaune de ce tour. Pour la dernière étape courue hier dans les rues de Kigali, c'est l'Algérien Azedine Lagab qui sort vainqueur et s'offre du coup une deuxième victoire d'étape.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, c'est au milieu d'un imposant dispositif de sécurité que les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir leur prochain président lors du second tour d'hier. Un second tour qui opposait le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta à Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Mais dans les grandes villes, le scrutin a été marqué par une faible affluence, surtout à Bamako. Le point avec Kassim Traoré.
Pour ce second tour, Ibrahim Boubacar Keïta a voté à l'école AB de Sébenikoro dans le bureau numéro 14. Ibrahim Boubacar Keïta, président candidat.
Un immense soulagement. Il reste maintenant au peuple malien à redéfinir ce qu'il souhaite comme avenir. Entre les mains de qui? C'est lui qui décidera aujourd'hui. Et quelle que soit cette décision-là, nous l'assumerons. Tranquillement, sereinement, en confiance. D'abord, saluer le peuple malien. Sa très grande maturité politique, démocratique et d'un civisme électoral exemplaire. Cela doit être souligné. Nous avons voulu cette élection apaisée et Alhamdulillah, elle l'a souhaité.
Soumaïla Cissé, le second candidat, était à Niafunke, sa ville natale, pour accomplir son devoir civique parmi les siens. Il s'est dit très confiant.
Je vote avec beaucoup de confiance. Beaucoup de confiance parce que nous avons fait une campagne extraordinaire, en particulier ici à Niafunke. Nous avons parcouru l'ensemble du pays et partout nous avons vu un désir extrêmement fort de changement. Les Maliens ont envie de changer, les Maliens ont envie d'un autre avenir, d'un autre espoir. Nous allons gagner parce que nous sommes sur le chemin de la vérité, nous sommes sur le chemin de l'espoir.
Ce second tour a été marqué par une faible affluence au niveau des bureaux de vote, surtout dans les grandes villes comme Bamako.
C'est l'accalmie, l'acceptation des résultats.
Ça se passe bien, ce que j'ai vu c'est très bien.
Le vote a démarré à 8h le matin. Était sur place et les quatre assesseurs étaient présents.
Aujourd'hui, comme au premier tour, nous avons vu que les Maliens sont allés aux urnes pour faire le choix de leurs dirigeants.
Du 29 juillet, bureau de vote par bureau de vote. Donc nos analystes sont sur la question en train de décortiquer ce fichier et les incohérences ont été constatées à ce niveau.
Le dispositif sécuritaire a été renforcé afin que tout le monde puisse voter dans la paix et la quiétude. Général de brigade Salif Traoré, ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.
À l'issue du premier tour, nous avons relevé quelques incidents malheureux. Nous avons plus de 800 bureaux qui n'ont pas pu ouvrir, essentiellement dans la région de Mopti, un peu de bureaux également dans la région de Tombouctou et dans la région de Ségou. Alors c'est pour corriger cela que nous avons fait ce déploiement supplémentaire, essentiellement des militaires qui ont été redéployés donc dans ces régions-là pour renforcer le dispositif. Donc c'est pour faire face à toute éventualité que nous avons décidé d'augmenter ces effectifs-là. Donc il s'agit du retour d'expérience.
À la fermeture des bureaux de vote, le Premier ministre a fait le point de la situation sécuritaire. Soumaïla Boubacar Premier ministre du Mali.
Moins d'incidents qu'au premier tour, on était à peu près 1,23% des bureaux. Contrairement à la dernière fois, on était à un peu plus de 3%. Depuis 48 heures, il a abondamment plu aussi sur l'ensemble du territoire, de Aguerhoc jusqu'à Kay. Et que cela a pu aussi peser dans la mobilité et des électeurs et de nos forces. Mais pour l'essentiel, je pense qu'à l'heure où je vous parle, là, c'est-à-dire à 18 heures, le point me paraît assez satisfaisant par rapport au premier tour.
Les Maliens doivent attendre 72 heures pour avoir les résultats provisoires qui seront transmis au niveau de la Cour constitutionnelle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Togo, le ministère de la Justice a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête sur la profanation de mosquées à Lomé, alors que les catholiques ont exprimé leur solidarité aux fidèles musulmans et exhorté les Togolais à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses de leur pays. Reportage à Lomé de la correspondante de VOA Afrique, Kay Lawson.
La communauté musulmane du Togo est en colère. Des mosquées situées à Goué dans la banlieue nord de Lomé ont été la cible de profanation. Pour l'Union musulmane du Togo, il s'agit des actes de sabotage et de provocation qui s'apparentent à des crimes de lèse-majesté à l'endroit de la communauté musulmane. Abdou Latif Mako est l'imam de la mosquée d'Agoué de Makoué. Il revient sur ces délits.
Dans la nuit du 27 au 28 juin, les fidèles de la mosquée 6 à Agoué Assiéyé ont trouvé les copies du Saint-Coran de leur mosquée déchirées, chiffonnées, puis accrochées aux grilles de la clôture. Les auteurs de ces profanations des lieux sacrés ont poursuivi leurs actes dans deux mosquées dans le quartier Kamfir. Ceci dans la nuit du 31 juin. Et du 3 août. Les mosquées ont été incendiées, les exemplaires du Saint-Coran détruits et les biens matériels saccagés.
Ces actes risquent de menacer le vivre ensemble religieux au Togo, estime-t-on. Le professeur Magloire Kouakoubi de la Commission épiscopale Justice et Paix insiste sur la forte cohésion interreligieuse qui prévaut dans le pays.
C'est inquiétant. On peut craindre le pire parce que vous vous rappelez que lorsqu'il y a eu le cas Charlie Hebdo, pas moins d'une quarantaine d'églises ont été brûlées au Niger. Bon, je ne crois pas que nous sommes dans ce cas d'espèce-là parce que au Togo, personne n'est inquiété pour sa confession. Tout le monde coexiste pacifiquement. Donc il n'y a pas de bisbille entre les religions. Depuis des lustres, il n'y a jamais eu de problème.
Dans un élan de compassion et de solidarité, la conférence des évêques du Togo a appelé à préserver le vivre ensemble pacifique entre les communautés religieuses dans le pays. Devant de tels actes qualifiés d'ignobles, l'Union musulmane du Togo invite la communauté à redoubler de vigilance. Imam Ali Sosa de l'Union musulmane du Togo.
L'Union musulmane, le conseil qu'il a donné à tout musulman du Togo, c'est d'être vigilant et patient. Et ils nous ont donné des directives à prendre. Ceux qui n'ont pas de gardiens, ils n'ont qu'à chercher les gardiens pour garder leur mosquée. C'est la maison de Dieu qu'on a saccagée. C'est très grave, très grave. Celui qui a touché la maison de Dieu et a touché le Coran, avoir l'audace jusqu'à les déchirer, il aura la punition de Dieu.
Suite à ces incidents, le ministère togolais de la Justice a ouvert une enquête pour mettre la main sur les auteurs et commanditaires de tels actes de profanation. Le ministre de la Justice, Pius Agbetome, a fait savoir qu'ils seront prêts à agir sans relâche et avec fermeté contre ces profanateurs. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a reçu 25 candidatures à l'élection présidentielle du 23 décembre. La CENI publiera la liste définitive le 19 septembre. Les ténors de l'opposition que sont Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba ont déposé leur dossier. Le camp présidentiel sera représenté par Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent du PPRD. Le président Joseph Kabila n'est pas candidat. Idriss Fall a recueilli la réaction de Richard Mouyege, gouverneur de la province du Lualaba.
Le chef de l'État Kabila a toujours répété qu'il respectera la Constitution. Les incrédules ont alimenté des spéculations. Ils ont extrapolé leur propre turpitude sur Kabila, qui lui, dès le départ, a toujours démontré qu'il était un homme de parole. Nous étions plutôt surpris par toutes ces spéculations qui venaient de partout au monde, tendant à l'obliger à déclarer en des termes auxquels il n'est pas très habitué. Kabila parle très rarement, il fait très rarement des discours, et comme il a dit lui-même, le silence est lourd, et on les brusque quand on a quelque chose à dire. Et chaque fois qu'il devait ouvrir sa bouche, il l'a répété, je respecterai la Constitution. Nous étions plutôt surpris et déçus par les chefs d'État africains qui se sont mis dans cette spéculation aussi, alors que la plupart d'entre eux ont fait justement ce qu'ils demandaient à Kabila de ne pas faire.
Kabila, 46 ans. De l'autre côté du fleuve, M. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis plus de 30 ans. Paul Biya se représente, il est au pouvoir depuis 37 ans. Paul Kagame au Rwanda joue les prolongations. Et Yoweri Museveni, sans parler de M. Idriss Déby Itno. Pourquoi autant d'insistance sur Joseph Kabila?
C'est ce que nous ne comprenons pas non plus. Pourquoi autant d'insistance sur Kabila? Les autres font ce qu'ils veulent. Mais je vous dirais tout simplement, comme Kabila lui-même, au Congo, nous n'avons pas de leçons à donner à d'autres. Nous observons ce qui se passe. Nous nous rendons compte que c'est une injustice de s'attarder sur Kabila. Je crois que c'est une leçon pour les acteurs politiques qui, après avoir gaffé au pays, vont en exil avec de l'argent détourné pour corrompre les médias à l'Occident et créer des opinions négatives. La culture chez nous au PPRD, c'est d'éviter de donner des leçons aux autres. Nous nous concentrons sur la victoire électorale.
Est-ce que vous pensez que Emmanuel Ramazani Shadary a des chances de remporter l'élection si jamais elle a lieu le 23 décembre?
N'ayez pas de crainte ni de doute. Nous ferons tout pour que les élections aient lieu à cette date. Nous nous attelons déjà à préparer la victoire d'Emmanuel Shadary. Je ne sous-estime pas l'opposition, mais je crois que Kabila a beaucoup fait pour ce pays. À 29 ans, il a réussi à obtenir une trêve de la guerre, à mettre les belligérants autour d'une table. N'oubliez pas la formule 1 plus 4, inédite à l'époque, pour la paix au Soudan du Sud. N'oubliez pas que c'est grâce à Kabila que la démocratie s'est retrouvée sur les rails, avec les référendums en 2005, les élections en 2006, élection en 2011 et bientôt le troisième cycle. Je ne me sens pas très frustré par ses faiblesses parce que j'ai l'habitude de dire que Jésus est venu une fois. Il n'a pas laissé de copies conformes. Nous attendons son retour. Aucun homme n'est perfectible. S'il y a des faiblesses, qu'on nous pardonne. Mais nous croyons dans l'avenir du Congo avec l'idéal kabiliste. Et le choix de Shadary permettra de soutenir cet idéal de la reconstruction et de la cohésion nationale.
Richard Mouyège, gouverneur de la province du Lualaba.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
N'Djamena, la capitale tchadienne, est selon notre correspondant sale en toute période des pluies. Dans les 10 communes d'arrondissement et la mairie centrale, le constat est le même. Une situation déplorée par le président Idriss Déby Itno le 23 juillet dernier, au cours d'une rencontre avec les autorités communales. Il leur avait donné un délai de 72 heures pour assainir la ville. Trois semaines après cet ultimatum, le correspondant de VOA Afrique, N'Djamena, André Kotma-Djingar, fait le point.
La situation dans les communes de 10 arrondissements est en tout cas identique, sinon pire. Je ne comprends pas pourquoi je vous donne 72 heures pour réparer le mal.
Trois semaines après cette sévère mise en garde du chef de l'État, Idriss Déby Itno, chef des communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, rien n'est fait sur le terrain. Des ordures creusées des caniveaux et des tas d'immondices ne sont pas dégagées et les rues ne sont pas aménagées. Une situation qui rend la ville désagréable alors que les hautes autorités du pays rêvent de faire de la capitale tchadienne la vitrine de l'Afrique centrale. Ironie du sort, ces élus locaux qui jouent à une prolongation comme les députés à l'Assemblée nationale, puisque leur mandat a pris fin depuis avril 2016, ne se rendent pas compte que la ville est sale. Il a fallu cette interpellation pour qu'ils organisent une tournée afin de s'enquérir des réalités du terrain. Djimé Ibet est le maire de la ville de N'Djamena.
Avec les 10 maires des communes d'arrondissement, nous sommes tous aujourd'hui sur le terrain pour constater nous aussi et donner des instructions aussi fermes. Nous allons fermer les dalles, enlever les terres curées parce que la ville est sale.
Après la mise en scène de Madame le maire de la ville de N'Djamena et les 10 chefs des communes d'arrondissement, le constat est le même. Quelques citoyens interrogés par VOA Afrique affirment que ces élus locaux sont défaillants.
Je pense que l'ordre donné par le président n'a pas été du tout respecté. Il y a des bassins de rétention du 7e arrondissement qui est débordant d'eau. À chaque fois que l'eau tombe, l'eau remonte jusque dans les concessions.
Quand il pleut, il n'y a même pas de l'issue pour que l'eau même passe.
Chaque année, je ne comprends même pas pourquoi cette rue ne soit pas améliorée par le 10e arrondissement.
Nous tous, les jeunes, les 10e, nous voulons que les maires prennent leurs responsabilités. Il faut qu'on amène des sables pour bien ranger la route.
Je pense que tous les maires ne sont pas stables. À chaque fois, on saute celui-là, on remet celui-là. Nous interpellons vraiment le président pour qu'il voit ce côté-là.
Pour le maire de la commune du 7e arrondissement, l'un des arrondissements le plus vaste de la capitale, le travail est en train d'être fait sur le terrain avec les moyens de bord.
Ce rappel à l'ordre n'a pas été accompagné par des moyens. Ben, nous nous sommes battus de tous côtés pour faire le travail. C'est un combat qui ne peut pas se faire en un seul jour. Je demanderai à mes concitoyens de nous aider dans ce travail. Parce qu'il y a des gens qui jettent les ordures dans les caniveaux et c'est ceux-là qui nous créent tellement de problèmes.
Selon la loi numéro 9 du 15 juillet 2005 portant statut particulier de la ville de N'Djamena, toutes les communes d'arrondissement, y compris la mairie centrale, ont bénéficié chacune d'une autonomie de gestion. Malheureusement, chaque période d'hivernage est considérée comme un cauchemar pour les habitants des quartiers périphériques de N'Djamena. André Kodumadingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
Aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoulia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.